Vatican News, le journal, il est 18h. Le journal, Hélène Détombe.
Bonsoir. Le pape François réaffirme l'importance de l'Esprit Saint comme défenseur dans notre vie de foi. Il exhorte l'Église à ne pas rester statique. Le Saint-Père commentait l'évangile de ce sixième dimanche de Pâques, juste avant la prière du Regina Caeli. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
C'est avec la participation de chaque baptisé que l'Église est appelée à agir, animée par la lumière et la puissance de l'Esprit Saint qui fait toute chose nouvelle. L'Esprit Saint comme force de défense et puissance de bien, voilà sur quoi le pape François a insisté avant de réciter la prière du Regina Caeli ce dimanche. Pour atteindre cela, il s'agit donc de nous libérer des liens mondains représentés par nos points de vue, nos stratégies, nos objectifs, qui souvent appesantissent le chemin de foi et de nous mettre à l'écoute docile de la parole du Seigneur, a-t-il affirmé.
La fede nel Signore, l'osservanza della sua parola, la docilità nell'azione dello Spirito Santo, che rende continuamente vivo e presente il Signore risorto.
La foi dans le Seigneur, le fait d'observer sa parole, la docilité à l'action de l'Esprit qui rend continuellement vivant et présent le Seigneur ressuscité, a poursuivi le pape, justifiant l'importance de ce soutien du Saint-Esprit à une vie de foi, à une Église en chemin. Enfin, pour que rayonne le visage de Dieu avec authenticité, beauté et lumière, le pape François a invoqué la Vierge Marie, Mère Céleste qui protège l'humanité, la priant de nous aider à se laisser instruire et guider par ce grand défenseur donc qu'est le Saint-Esprit.
Delphine Allaire, et au terme du Regina Caeli, le pape, en saluant les fidèles, a encouragé les initiatives de fraternité en faveur des malades en cette journée consacrée en Italie au soulagement de la souffrance. Dernière journée de vote pour les européennes ce dimanche. Les premiers bureaux de vote avaient ouvert jeudi dernier aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Aujourd'hui, ce sont les électeurs de 21 pays de l'Union européenne, dont la France, qui désigne les députés du Parlement de Strasbourg, 751 au total. À 17h, la participation était de 43,29% en France métropolitaine, soit 8 points de plus qu'en 2014 à la même heure, une tendance qui semble se confirmer dans la plupart des pays de l'UE. Les derniers bureaux de vote fermeront à 23h, ce sera en Italie. La grande question est de savoir si les sondages qui laissaient présager une poussée des partis populistes ont dit vrai. À Bruxelles, Pierre Benazé.
Selon les sondages, les députés élus lors de ces 4 jours de scrutin devraient amener une recomposition du Parlement européen, avec d'une part un repli des grandes familles politiques traditionnelles, conservateurs et socialistes, et d'autre part une poussée annoncée du vote en faveur des partis populistes, eurosceptiques, voire carrément opposés à l'Union européenne. Mais cette lame de fond annoncée ne paraît plus aussi évidente depuis les sondages de sortie des urnes jeudi soir aux Pays-Bas. Les électeurs néerlandais auraient en effet mis à la deuxième place les libéraux du Premier ministre, Mark Rutte, et surtout à la première place les travaillistes emmenés par Frans Timmermans, qui est par ailleurs vice-président de la Commission européenne et tête de liste des socialistes européens pour la succession de Jean-Claude Juncker. Le plus contraire au sondage est que les populistes de Forum for Democracy n'arriveraient au mieux qu'en troisième position. Ce parti qui plaide pour la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne était pourtant donné grand favori. Le chaos causé au Royaume-Uni par le Brexit a peut-être échaudé les eurosceptiques néerlandais et les partis traditionnels des autres pays se prennent à espérer un effet similaire et un sursaut de l'électorat pro-européen. Pierre Benazé, Bruxelles, RFI pour Vatican News.
Et en Autriche, le parti conservateur du chancelier Sébastien Kurz arrive largement en tête du scrutin européen, selon des estimations publiées à la fermeture des bureaux de vote, loin devant les sociaux-démocrates et le parti d'extrême droite. Le chancelier qui apparaissait affaibli par le départ de ses anciens partenaires d'extrême droite à la suite de l'Ibiza Gate doit faire face demain à une motion de censure déposée par l'opposition écologiste. En Algérie, les prétendants à la présidentielle prévue le 4 juillet prochain avaient jusqu'à minuit pour remettre leur dossier, mais aucune candidature n'a été déposée selon la Radio Nationale qui évoquait ce matin une situation inédite dans le pays. Une information démentie par le Conseil constitutionnel qui fait état du dépôt de 2 dossiers. Ce scrutin, souhaité par l'armée, est vivement rejeté par une grande partie des Algériens. Vendredi, ils étaient plusieurs milliers rassemblés dans la rue pour la 14e semaine consécutive, réclamant notamment l'annulation de cette élection. La communauté catholique du Burkina Faso est de nouveau endeuillée. Une église a été attaquée à Toulfé, dans le nord du pays, lors de la messe ce matin. Des hommes armés ont tué 3 fidèles. L'attaque a également fait plusieurs blessés. Un prêtre et 9 catholiques avaient été tués les 12 et 13 mai derniers lors d'attaques perpétrées dans le nord du pays, dans les paroisses de Dablo et de Zimtenga. Et un Salésien espagnol avait été poignardé le 17 mai dans la ville de Bobo Dioulasso, au sud-ouest du pays. Avant de passer à la deuxième partie de ce journal, à noter que ce dimanche 26 mai, l'œuvre d'Orion a proposé à toutes les communautés catholiques de France de prier en communion avec les chrétiens d'Orient. C'est la deuxième année que cette initiative est lancée. Toutes les précisions à l'adresse vaticannews.va. Place à présent à notre rubrique Histoire de sainteté. Sœur Catherine Aubin nous présente aujourd'hui la figure de Saint Philippe Néri, fondateur de l'oratoire fêté ce 26 mai.
Philippe Néri est un saint original, plein d'entrain, aimant la musique et la poésie. Philippe est né à Florence dans une famille de riches notables en 1515. Même s'il passera toute sa vie d'adulte à Rome, il restera marqué à tout jamais par ses origines. D'un côté, la grâce, l'humour, les bons mots, le rire sont les signes distinctifs des Florentins. De l'autre, il est fasciné par la radicalité évangélique qu'incarne le dominicain Savonarole. À 18 ans, sa famille est en butte à des revers de fortune dus à l'instabilité politique de la ville. Philippe quitte Florence pour rejoindre un oncle près du Mont Cassin. Très vite, il rompt tout lien avec sa famille et prend ses distances avec le métier de commerçant pour entreprendre une vie solitaire dans les églises et les monastères de la ville. On le retrouve ensuite en 1534, il a 19 ans, à Rome, où il vit dans une extrême pauvreté et une grande solitude. Il passe le plus clair de son temps dans les églises et les catacombes de la ville où il mène une existence semi-érémétique. La prière mise à part, une seule activité trouve grâce à ses yeux, le service des pauvres et des malades. Après 10 ans de cette vie, en 1544, il a 29 ans, alors qu'il prie dans les catacombes, Philippe est comme visité par l'Esprit Saint qui se répand en lui. Cette Pentecôte personnelle restera un secret jalousement gardé, même si sa vie en fut profondément bouleversée. Désormais, un feu le dévore et ne le lâchera plus. C'est à cette époque que, dans son existence vagabonde, il commence le pèlerinage aux 7 églises de Rome. La méthode de Philippe repose sur 2 piliers, l'art du dialogue et de la rencontre et celui de la prière. On lui cède une église, il s'y installe et il inaugure la vie communautaire qui deviendra plus tard l'oratoire. Au départ, il s'agit simplement de rassembler des jeunes qui ont été conquis par son style fait de bonté, de profondeur et qui veulent poursuivre. Les 8 à 10 personnes qui sont là conversent dans la chambre de Philippe sur les Saintes Écritures. Mais la chambre est vite trop petite, le public est trop nombreux, le succès suscite des jalousies, il doit faire face à des attaques qui viennent des plus hautes sphères de l'Église. Mais l'essentiel est fait, la ville de Rome a renoué avec la sève évangélique. On raconte à son sujet cet épisode. À une femme qui était venue se confesser à lui et qui disait des calomnies, il aurait donné cette pénitence. Rentrez chez vous, prenez une poule, plumez-la. Ensuite, allez dans votre quartier, semez les plumes sur votre jardin, puis revenez me voir. Le jour suivant, la femme repentie revient. Philippe lui demande alors d'aller ramasser toutes les plumes dans la rue. Mais c'est impossible, dit-elle. Il lui répond, il est plus facile de calomnier que de réparer les conséquences. En 1575, Philippe a 60 ans et demande au pape Grégoire XIII d'avoir une église pour son oratoire. Le pape lui accorde, il fonde alors la congrégation de l'oratoire et entreprend une œuvre immense, l'église neuve, la Chiesa Nuova. Pendant ces dernières années, il mène une vie retirée, il est tellement ravi lorsqu'il célèbre la messe qu'il utilise l'humour pour donner le change. Il reçoit dans sa chambre de nombreux visiteurs, se retire souvent dans sa loggia et s'éteint le 26 mai 1595. Il a 80 ans.
Voilà, c'était la figure de Saint Philippe Néri présentée par Sœur Catherine Aubin. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous.